Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Pendant 30 minutes, l'antenne d'Africa numéro 1 vous appartient. Aujourd'hui, nous attendons vos réactions et vos questions sur l'avenir de la francophonie. Dans un peu plus d'une semaine, Erevan, en Arménie, accueillera le prochain sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce sommet revêt certains enjeux au regard de la bataille à laquelle se livrent les postulantes au poste de secrétaire général et de l'absence de consensus entre les pays membres. Alors à quoi doit servir la francophonie? Nous en parlerons dans quelques instants avec Caroline Roussy. Elle est docteure en histoire de l'Afrique contemporaine et co-auteure surtout avec Kako Nubukpo d'une tribune pour une francophonie de l'action, une note qu'ils viennent de publier à la Fondation Jean Jaurès. Pour intervenir, posez vos questions à notre invité. Composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 si vous appelez depuis partout ailleurs dans le monde. Avant de se pencher sur le sujet du jour, direction le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter quelques-uns des messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Banina boyoka ntangwa maweko tilisanga papa wemba kei atiki biso baya ya orphelin ekumani azalaka le grand créateur na lisano ayebaka kopesa gune le kase ne lamba grifango le loto tikali yolela toyebi pa inini akocha lokolote adieu.
Oui, cher ami du JDA et madame Atman, bonjour. Je me permets d'intervenir aujourd'hui. C'est pour souhaiter un bon retour à Fatou Birama et bonne guérison sincère. Dieu donné Kassongo, bien les choses à tout le monde, que Dieu bénisse tout le monde. À très bientôt, ciao, ciao, merci encore.
Bonjour amis de JDA, bonjour Stéphanie, c'est Djabi. Je vais parler aujourd'hui, le président de la République, je vous ai toujours dit que ce président de la République qui ne sait pas où y aller. Je remercie d'abord des Maliens, les Maliens et Maliennes qui sont à New York, qui sont sortis massivement aller voir ce président de la République empêcher à l'ONU, des chefs de l'ONU, pour dire que non, on n'est pas d'accord avec l'élection de ce président de la République, qui nous a volé les élections. Qui nous a volé les élections. Je remercie beaucoup des Maliens qui étaient courageux, qui ont montré le peuple américain comme quoi que le vol que l'Europe a fait, on n'est pas d'accord avec eux. Je remercie beaucoup à mes compatriotes maliens qui sont en Europe, qui sont fait vraiment un bon travail. Alors c'est nous maintenant qui vivons en France, quel travail qu'on devait montrer à un président de la République qu'on n'est pas d'accord avec lui. Vous voyez un président de la République qui a déménagé des G5 Sahel à Kidal, non pas Kidal, qui déménage vraiment Meneka de amener des G5 à Bamako. Est-ce qu'on a besoin de soldats à Bamako? C'est M. Djabi.
Ma très chère Atman, bonjour. À la veille de la reprise du procès de Laurent Gbagbo, moi j'ai un message important à l'endroit de la Cour pénale internationale. Ben, moi je dis ceci à la Cour pénale internationale. Depuis 2010 jusqu'à nos jours, la Côte d'Ivoire est en paix. Le pays va mieux. Moi je demande à la Cour pénale internationale de ne pas libérer M. Laurent Gbagbo. Pour deux raisons. La première raison est que depuis que ce monsieur est en prison, ses responsables ne tiennent pas un discours courtois, ils tiennent des discours guerriers. Et la deuxième raison est que Laurent Gbagbo est quelqu'un qui n'a jamais bâti quoi que ce soit, ce n'est pas un bâtisseur, mais il a toujours tenu des propos populistes pour diviser la population. Et rien que pour cela, Laurent Gbagbo doit toujours rester en prison pour l'instant. Idriss, bonne journée.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, nous parlons de la francophonie à quelques semaines du prochain sommet de l'OIF. Nous en parlons avec Caroline Roussy, docteur en histoire de l'Afrique contemporaine et co-auteur avec Kako Nubukpo de Pour une francophonie de l'action, une note qu'ils viennent de publier à la Fondation Jean Jaurès. Caroline Roussy, bonjour.
Bonjour Madame Hartmann.
Merci d'être avec nous Madame Roussy. Alors, selon la déclaration de Bamako adoptée en 2000, la francophonie rassemble, l'OIF rassemble 84 États ayant la langue française en partage et des valeurs communes. Mais vous écrivez, considérée comme un reliquat du passé colonial, la francophonie ne séduit guère. Comment expliquez-vous rapidement, pour introduire l'émission, que la francophonie peine à convaincre, que l'espace francophone finalement peine à faire sens aujourd'hui?
Eh bien, comme nous l'avons expliqué dans la note que nous avons coproduite avec Kako Nubupo, cette francophonie tarde à séduire dans la mesure où elle est extrêmement institutionnelle et institutionnalisée, comme vous pouvez le constater de par vous-même. En réalité, elle a une très forte activité diplomatique qui est assez peu connue de la part des citoyens et des concitoyens francophones. Par ailleurs, je pense, et c'est là un diagnostic très fort que nous avons posé, c'est le fait qu'il y a des obstacles qui viennent de l'ambivalence même de la France à l'égard de cette francophonie, dont elle s'est tenue à l'écart tout en finançant finalement plus de la moitié de son budget. Donc ce qui a nourri malaise et suspicion à son endroit et quant à ses missions avérées. Voilà. Je pense que ce sont vraiment les deux facteurs de blocage qui font qu'en réalité, beaucoup de gens n'identifient pas les missions de la francophonie et ne savent pas exactement à quoi elle sert à l'heure actuelle.
C'est très clair, Caroline Roussy. Vous nous dites s'il y a un problème avec la ligne, vous entendez bien, ça va Caroline?
Ça va à peu près.
D'accord, parce que je crois qu'on m'a dit que vous aviez un petit écho, si vous voulez, on vous rappelle, hein, vous me dites.
Oui, pour l'instant ça va.
Alors, une deuxième petite question, alors j'en profite avant de donner la parole aux auditeurs qui sont nombreux, et notamment on va écouter Abdel qui est du côté de Montréal, vous venez de le dire, hein, la francophonie n'est pas toujours très lisible, alors signe que la francophonie ce n'est pas que la langue française, l'une des candidates au poste de secrétaire générale cette année, Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, elle vient d'un pays qui a préféré finalement faire de l'anglais sa langue officielle au détriment du français. D'ailleurs, vous parlez aussi de l'attitude ambivalente de la France depuis plusieurs décennies. Est-ce qu'en apportant son soutien ouvert et affirmé à Louise Mushikiwabo, la France, par la voix d'Emmanuel Macron, confirme-t-elle que finalement la francophonie est davantage un instrument politique?
Eh bien, écoutez, c'est là sans doute ce qui est à déplorer à l'heure actuelle, effectivement, cette instrumentalisation de la francophonie au service de négociations bilatérales. Je tiens toutefois à souligner que c'est loin d'être nouveau et que cela a été le cas auparavant pour la nomination des différents secrétaires généraux qui ont précédé Michael Jean. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons proposé dans le cadre de notre note, et je pense que c'est une réforme institutionnelle qui devrait être adoptée, à savoir qu'en réalité, il puisse y avoir une ambition des candidats qui se présenteraient au poste de secrétaire général de la francophonie, et qu'il y ait un débat projet contre projet pour éviter effectivement ce genre d'inconvénient à quelques jours en fait du sommet qui décidera de l'avenir de cette institution.
Un débat projet contre projet, ce serait une excellente idée. Restez à l'écoute Caroline, on se tourne côté du standard, voilà, donner la parole aux auditeurs. On commence avec Abdoulaye qui nous appelle depuis Conakry. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
Bienvenue dans le journal des auditeurs. Abdoulaye, qu'est-ce que représente la francophonie pour vous?
Vous dites?
Je vous demandais qu'est-ce que représentait la francophonie pour vous?
Bon, moi, j'avais une question à poser par rapport à la francophonie.
On vous écoute, allez-y. Bon,
celle de savoir pour quel intérêt la France pourrait soutenir la candidature du ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, alors que le Rwanda a changé sa langue officielle du pays, qui était le français, au profit de l'anglais.
La question est claire. Abdoulaye, je crois que Caroline Roussy y a légèrement répondu à l'instant. Parmi les arguments en faveur du soutien de la France, Caroline, à la candidature de Louise Mushikiwabo, est-ce qu'on peut parler d'une volonté de la France de se rapprocher de Kigali?
Je crois que le signe est assez clair, en effet. Hein. En effet, l'objectif, dans un processus dit de vérité et réconciliation, l'objectif aujourd'hui est de restaurer des relations bilatérales entre la France et le Rwanda. Après, moi, je ne suis absolument pas porte-parole du Quai d'Orsay, donc ce serait plutôt à eux de développer leur stratégie si tant est qu'elle puisse être publique.
Merci Caroline. Abdoulaye, vous avez peut-être une autre question?
Non, c'était la seule question que j'avais.
Merci Abdoulaye de votre participation. Bonne journée à Conakry. Merci beaucoup. On va se rendre dans un autre pays francophone, au Canada, plus précisément à Montréal. Bonjour Abdel.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour. Alors, quel regard portez-vous sur ce sommet qui approche à Erevan et sur la bataille qui va être dure et sur le fait que votre candidate, finalement, Michaëlle Jean, je dis votre candidate parce qu'elle est canadienne, vous m'excuserez, a du mal à avoir du soutien.
C'est vraiment dommage que nous sommes dans un grand dilemme, un très grand dilemme, surtout avec le coup que la France a donné à la francophonie. Parce qu'aujourd'hui, la France a pour d'autres intérêts, d'autres agendas qu'on ne connaît pas. Elle a sacrifié la francophonie au profit de ses offices au CUC. Et aujourd'hui, le Canada, qui présente un candidat, malheureusement, ce candidat aussi à qui on reproche certaines choses, est sacrifié aujourd'hui par la France qui est censée soutenir la francophonie. Et depuis toujours, la francophonie donner une caution à la démocratie de chaque pays pour choisir ses secrétaires. Malheureusement, la France va soutenir et encourager la dictature du Rwanda qui emprisonne ses opposants. Nous avons Gabiré qui est en prison depuis des années. Et un certain nombre de gens, il y a même des opposants qui ont été tués en Afrique du Sud parce qu'ils sont opposants au régime rwandais. Et c'est ça là que la France cautionne aujourd'hui. Parce que cherche d'occasion pour se faire pardonner pour son implication dans le génocide Rwanda. Et sacrifie le candidat du Canada, le grand Canada. On se demande vraiment où est-ce qu'il y a encore d'avenir pour cette francophonie. Je crois que la France, tout est fini avec ça.
Est-ce que le Canada va soutenir hein, jusqu'au bout la candidature de Michaëlle Jean, selon vous?
Mais il n'y a pas de question que le Canada ne soutienne pas sa candidature. Ça, c'est la moindre des choses. Sinon, bon, si, ça, c'est sûr, là. C'est notre candidat jusqu'à la nouvelle ordre, là.
Parce que, Abdelwassi, vous savez, la règle à l'OIF pour élire le secrétaire général, c'est le consensus. Hein, donc voilà, il faudrait essayer que tout le monde tombe d'accord, ce qui est loin d'être gagné. Caroline Roussy, notre invitée tout à l'heure, évoquait un débat projet contre projet pour justement choisir le prochain secrétaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, il ne peut pas y avoir parce que les préalables sont déjà partis d'abord. Je pense que le Rwanda a choisi l'anglais comme langue officielle depuis un moment, là. Mais oui, ça c'est.
Il s'est pas retiré de l'OIF. Hein, voilà, au Rwanda, on précise, le Rwanda fait toujours partie de l'OIF.
Même si c'est parti, parce qu'il faut voir quel engagement il prend par rapport à ce français, l'anglais. Parce qu'on parle de le français en partage. Et le français en partage aussi, c'est le soutenir. Vous savez comment on se bat pour les Français au Québec ici, là. Ça fait partie des enjeux, des enjeux électoraux dans ce pays-là. Le français, ça fait partie des grands enjeux ici. Là, on se bat pour ça. Tout l'immigrant qui veut venir ici, là, on veut même dire que s'il n'est pas français, il va partir au Québec. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas petite chose de un pays choisit une autre langue, même s'il est français, de l'OIF. Mais s'il ne fait pas la promotion de la langue d'entier, le français, parce qu'on a dit francophone. C'est francophone, il n'y a rien. Si on enlève ça, là, il n'y a plus rien d'autre. Là.
Non. Et la langue française en avant.
La France ne nous encourage pas à donner valeur à cette francophonie-là. Ça, c'est malheureusement là où nous sommes à la conclusion. Ça. Malheureusement, il y a des pays africains qui ne vont jamais se lever aussi, porter leurs culottes, mais ils vont baisser les culottes devant le Rwanda avec cette dictature-là. Ça, c'est triste.
Merci Abdel. Effectivement, l'Union africaine a fait de Louise Mushikiwabo sa candidate pour le poste de secrétaire général de l'OIF. Suite à ce propos d'Abdel Ouassi depuis Montréal, Caroline Roussy, puisqu'on parle de la question des valeurs communes et de la défense de la démocratie, quel bilan faites-vous de l'OIF en matière de défense de la démocratie, notamment à l'aune de ce sommet où on va discuter de l'adhésion de l'Arabie saoudite?
Alors oui, bon, de toute façon, c'est une question éminemment complexe. Hein. Moi, je ne sais pas effectivement ce qui va se passer concernant la candidature de l'Arabie Saoudite. Je tiens à rappeler que, bien évidemment, les valeurs fondamentales de l'OIF doivent rester la défense de la démocratie, des droits de l'homme et également de la langue française. Toutefois, je note. Et en tant qu'observatrice extérieure, je note que je n'ai pas beaucoup entendu Michaël Jean, durant la durée de son mandat, prendre des positions forte concernant ces différentes valeurs, cela va être son axe de défense lors de la défense de sa candidature au sommet d'Erevan. Voilà, moi c'est tout ce que je constate. Alors moi je pense qu'il
Et concernant le Rwanda par exemple, est-ce que le Rwanda est légitime à présenter une candidate sachant que
Alors écoutez, le Rwanda est légitime dans la mesure où aujourd'hui en tout cas, et je pense que les Africains peuvent s'en satisfaire puisqu'ils se sont réunis derrière une seule et unique candidature qui est celle de madame Louise Moukichi-Vabo. Voilà. Je pense que c'est un signe qui est très fort. Après, moi, je tiens à préciser que je ne suis pas ou pour Louise Moukichi-Vabo ou pour Michaël Jean, mais bien pour voir la progression de cette institution qui est l'Organisation internationale de la francophonie autour de projets concrets que sont ceux de faire communauté, d'avoir une vision culturelle ambitieuse et renouvelée, de développer l'axe économique et enfin de proposer un certain nombre de réformes sur le plan politique, dont celui notamment des nominations. Oui. Avec le fait qu'il y ait une audition préalable des candidats et qu'on puisse assister à un débat projet contre projet. Pour ce qui concerne la défense des valeurs de démocratie et de droits de l'homme, nous avons proposé la création d'un conseil des Sherpas ou conseil des sages, qui justement pourrait orienter la décision du secrétaire général en matière de dénonciation ou d'exclusion d'États qui ne seraient pas conformes aux valeurs de droits de l'homme et de respect de la démocratie. Voilà, donc je pense que ce sont des réformes institutionnelles qui sont fortes, je pense que ce sont des axes qui sont forts, qui ont une vision qui est celui de faire communauté, que la francophonie fasse sens pour chacun d'entre nous. Voilà.
Créer une francophonie des peuples et pour tous, si j'ai bien compris, Caroline.
Exactement,
Rossi.
Exactement.
Restez à l'écoute, il nous reste une dizaine de minutes. D'ailleurs, hein, parmi vos propositions, hein, la création d'un Erasmus francophone, la création d'un visa hein, francophone aussi hein, pour les chercheurs, les étudiants, les artistes et les hommes et les femmes d'affaires. Vous le rappelez d'ailleurs que Emmanuel Macron, on a fait une promesse, hein, oui, le 28 novembre 2017 à Ouagadougou. On remercie Abdel et on lui souhaite une bonne journée. À Montréal, on va écouter Ruffin, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Bonjour monsieur Ruffin, vous n'arrivez pas à comprendre à quoi sert la francophonie. Pour vous, elle profite aux dictateurs.
Mais c'est un espace de dictateurs, madame. Cette francophonie, depuis qu'elle a commencé, votre invité parle que les Africains doivent se réunir devant cette Rwandaise-là, elle-même qui soutient, il y a une dictature là-bas au Rwanda, mais quelle unité pour soutenir qui? Pour soutenir le Rwanda?
Vous dites finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes peu convaincu par le bilan de l'OIF en matière de défense de la démocratie, c'est ce que vous dites.
Elle ne défend rien, cette francophonie. Elle défend que les dictateurs. Mmh. Elle ne défend même plus le peuple. Hein? Elle ne défend même plus le peuple. Vous allez voir, ça sera une réunion remplie de dictateurs là-bas. C'est le seul espace où il y a que des dictateurs là-bas.
Oh, il y a quand même la France et le Canada, Ruffin, la Belgique.
Oui, mais la France et le Canada sont là pour soutenir des dictateurs, ça on le sait bien.
Alors ça justement, c'est la francophonie côté institutionnel, vous voyez vous Ruffin, l'OIF, mais tant que locuteur du français, en tant que francophone, qu'est-ce que représente pour vous la francophonie, Ruffin?
Si vous avez écouté M. Halema, beaucoup l'écrivain qu'on avait proposé à M. Macron, pour il avait bien dit, la francophonie n'a pas de problème, la langue francophone n'a pas de problème en Afrique. C'est le problème, c'est des dictateurs. La France doit faire une politique de dégager tous ces dictateurs-là. Mmh. Et puis, mettez les peuples au cœur de la francophonie. C'est tout. C'est tout simple. Monsieur Halema Bankou l'a bien expliqué. Mmh. La langue française n'a pas de problème. La francophonie, le problème, c'est que ça devient un espace pour aller soutenir des dictateurs. C'est des réunions qui n'aboutissent à rien. Il n'y aura rien de concret là-bas. Mmh. On va élire une Rwandaise qui soutient un dictateur rwandais. Mais qu'est-ce que ça va donner à la France? Il n'y a rien du tout.
C'est ce qu'on disait finalement au début d'émission, mon cher Ruffin, c'est que l'espace francophone peine à convaincre, hein, et on l'entend dans votre propos. Je vous souhaite une excellente journée, Ruffin, on va essayer d'écouter Dédé s'il m'entend. Dédé, bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur Dédé.
Je vous rappelle parce que vous connaissez, vous tous, qu'est-ce qu'est la francophonie. Il y a la langue française tout d'abord qui va dominer. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous allez prendre un pays qui a quitté, s'il faut dire, le département français ou la communauté.
Alors, qu'on soit bien clair, le Rwanda reste membre de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Par contre, le Rwanda a fait de l'anglais sa langue officielle. Voilà.
Mais pourquoi sont-ils restés? Comme je viens suivre un auditeur qui vient de dire que c'est un espace commercial et des dictateurs. Parce que la France y trouve aussi son compte. Mais au profit de pourquoi? Parce qu'il sait que la langue française est véhiculée. La majorité des pays parlent la langue française couramment et dans le quotidien. Il y a combien de pays anglophones? Pourquoi pas le Rwanda adhère au
Commonwealth?
Parce qu'ils ont un intérêt, madame.
Alors, c'est intéressant, Dédé. Merci beaucoup, Dédé. On va écouter Hassan, justement, qui va nous parler de l'anglais à cause de la mondialisation. Et on terminera peut-être sur cette notion de francophonie économique qu'a voulu notamment faire émerger un président comme François Hollande. Hassan, bonjour. Attendez, j'ai une petite longueur sur la ligne. Voilà. Bonjour, oui. Hassan, depuis Djibouti.
Bonjour à tous les auditeurs de l'Africa numéro 1.
Bonjour Hassan, bienvenue chez vous. Alors dites-nous Hassan, vous vouliez dire que finalement le français est menacé par la mondialisation et le fait que l'anglais soit la langue du commerce.
Oui, tout à fait, parce qu'il faut savoir que, par exemple, si je prends un exemple très simple à Djibouti, le français est menacé de plus en plus et c'est l'anglais qui domine de plus en plus et il y a de plus en plus de cours de soutien, si je peux dire, des écoles privées qui donnent et qui dispensent des cours d'anglais. Parce que de plus en plus, la France semble être absente sur la scène internationale, dans le commerce et tous ces éléments-là. Donc la France a de plus en plus de retard par rapport à l'anglais. Et nous avons aussi, il faut dire que la Chine de plus en plus domine l'Afrique. Et souvent, le peuple africain ne savent pas parler encore ou ne maîtrise pas le chinois, donc le mandarin. Et souvent, la langue qui est officielle ou c'est la langue de communication entre les Chinois et le peuple français ou les dirigeants africains, c'est l'anglais. Donc, je crois que la France a de plus en plus de difficultés à se maintenir sur la scène internationale, surtout être leader dans tous les domaines, surtout commercial. Et même la francophonie, de plus en plus, elle disparaît. La question qu'on se pose, c'est pourquoi. Et le but, je crois que le but de plus en plus, c'est cette absence, ou même si on peut dire qu'il y a un rejet du français dans le continent africain. Mais on doit s'éveiller, organiser par exemple des concours, donner des bourses d'études, par exemple aux étudiants africains. Donc, redynamiser la langue française sur le continent, c'est très important.
C'est très clair, Hassan, pour qui il y a un recul du français sur le continent. On n'aura pas le temps de prendre Ousmane, qui se demandait s'il y avait des peuples asiatiques qui sont dans la francophonie. Et bien sûr que oui, on peut citer notamment le Cambodge ou encore le Laos. D'ailleurs, je pense que l'un des premiers dirigeants d'un pays asiatique était à la création de l'OIF avec... notamment d'autres dirigeants africains. Caroline Roussy, peut-être une dernière question. Alors Hassan évoquait le français en recul face à l'anglais, langue du commerce. François Hollande a voulu mettre l'accent il y a quelque temps sur la francophonie économique, voulant faire de la francophonie et de l'espace francophone, une espèce de zone de libre-échange, en tout cas une zone économique prospère. Je crois que vous vous levez un peu contre ça dans votre note, notamment contre la religion de l'argent.
Oui, tout à fait. De toute façon, nous, la manière dont cette note a été pensée, et je voudrais un petit peu revenir sur ce que les deux précédents auditeurs ont dit, la francophonie, elle ne doit pas être pensée à partir de la France. La France n'est pas le centre de la francophonie et les autres pays à considérer comme des périphéries ou des satellites. Il y a bien plusieurs centres en francophonie, et je tiens à insister sur cette francophonie plurielle. C'est à cette seule condition que l'on pourra créer les conditions d'une égalité entre les différents partenaires et forcément aller dans le sens de négociations égalitaires, justement pour créer cet espace économique dont vous faites mention. Voilà, ça c'était quelque chose que je tenais particulièrement à rappeler, parce que c'est en changeant ces représentations que l'on pourra aborder appréhender des solutions nouvelles. Mmh. Ensuite, concernant effectivement le recul du français dans les instances internationales, c'est en effet une question qui est très importante, qui est à soulever, qui est à traiter, dans la mesure où il y a une perdition très importante lors des débats, parce que beaucoup de francophones maîtrisent certes l'anglais, mais souvent très mal. Voilà. Oui. Et donc, c'est parce qu'il faut... Après, sans imposer, le français ne doit pas être imposé au pays, aux locuteurs. Cela doit partir d'une demande, en réalité, une demande des États, une demande des populations, pour créer justement ces conditions d'envie et d'égalité. Hein. J'essaie vraiment d'insister là-dessus, parce que je souhaiterais qu'on dépasse cette lecture de la francophonie, même si les événements... au plus haut niveau ne nous invite évidemment pas à le faire. Hein.
Oui, et c'est vrai qu'avec le positionnement français en faveur de la candidature de Louise Moushikibabo, c'est difficile effectivement cette francophonie plurielle que vous appelez.
Oui, bien sûr, c'est effectivement extrêmement difficile. Après, il est entendu que nous devons faire de la réelle politique et avec ce que nous avons à l'heure actuelle. Nous avons à l'heure actuelle deux candidates et il sera impossible d'imposer un nouveau mode de fonctionnement à quelques jours du sommet d'Erevan. Ce sont donc là des propositions d'avenir pour repenser la francophonie, pour avoir le goût de cet imaginaire francophone et un imaginaire francophone ambitieux où tous les États sont considérés comme des partenaires à égalité. Voilà.
Merci Caroline Roussy. On arrive à la fin de l'émission rapidement. Il me reste une minute, le temps de vous soumettre cette question, une petite réponse. Il y a des écrivains qui rejettent la catégorie francophone, arguant que ce sont davantage des écrivains français. Qu'est-ce que vous en pensez, puisqu'on a, il était question beaucoup d'Alain Mabankou dans cette émission.
En fait, je comprends tout à fait leur revendication, dans la mesure où effectivement, comme les Français ne savent pas qu'ils sont francophones. Eh bien, effectivement, les francophones sont renvoyés à une espèce de catégorie assez vague et finalement ayant une maîtrise plus ou moins bonne de la langue française, ce qui, en l'espèce, ne saurait être le cas. Donc voilà, et changer de paradigme, c'est vraiment traiter ces questions et justement arrêter de considérer qu'il y a les Français et les autres.
Merci Caroline Roussy, on restera sur cette phrase, changer de paradigme d'ailleurs. Hein, j'invite les auditeurs à aller lire votre note coécrite avec... Kako Nubukpo, ancien ministre togolais, pour une francophonie de l'action, c'est sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Vous retrouverez le lien, chers auditeurs, sur notre page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs. Merci à notre invitée Caroline Roussy. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. À demain.